C'est quoi ce pays de merde?
Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien.
Merci.
Moi, je m'en vais. C'est un assassin.
La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire.
Je n'oublierai pas devant nous les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pas et on chantait.
Oh allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça. Allez les gars.
Il y a des anarchistes dans le salon.
Bonjour, il est 13h sur Radio U. Chérie, je crois qu'il y a des anarchistes dans le salon. Ça commence tout de suite. C'est une hebdomadaire d'actu en direct tous les lundis à 13h et en réécoute le jeudi à 10h30. On peut retrouver également les podcasts sur le site radio-u.org. Alors c'est parti pour une petite demi-heure d'infos sélectionnées. Au sommaire de cette émission, on va parler du TIDOR, la journée du souvenir trans. On parlera de prisons aussi, les prisons nouvelle génération, notamment à Noisy-le-Grand dans le 93. La Quadrature du Net qui lance un appel à dons. On parlera de l'appel du collectif Vérité et Justice pour Babacar Gay et l'appel à la marche à Rennes le 4 décembre. Et enfin, on parlera de deux rendez-vous à Brest à l'occasion de la journée contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, juste avant, une petite info que j'ai vue ce matin, la manifestation à l'appel de nous toutes à Paris samedi 20 novembre. C'était à l'occasion contre les violences sexistes et sexuelles. Et il y a des fascistes qui ont attaqué la manifestation. Donc, je vais vous lire. Enfin, j'ai vu l'information grâce au collectif Paris Queer Antifa. Donc le collectif Némésis, qui est un collectif féministe entre guillemets, mais qui lutte également contre l'immigration et qui est un collectif fasciste en fait, s'est invité à la manifestation Nous Toutes. Elles étaient accompagnées de 20 à 30 mecs qui appartenaient à des groupes d'extrême droite, notamment la Cocarde. Némésis a déployé une banderole raciste et islamophobe. On pouvait lire notamment « La haine des femmes n'est pas un enrichissement culturel. 99% des Afghans favorables à la charia. » Alors la foule, la manifestation de nous toutes a répliqué en les huant et en leur disant « Cassez-vous, cassez-vous ». Comme elles n'étaient pas contentes de cette réaction, les militants fascistes ont sorti des armes et ont attaqué des manifestants et des manifestantes avant de se faire repousser et de partir en courant. Voilà, alors il y a des vidéos qui ont été diffusées sur Internet qui montrent les agressions très violentes des fachos. Et on a appris ce matin que Némésis portait plainte contre le média Le Peuple Uni, qui est un média révolutionnaire anticapitaliste et autonome, parce que elle porte plainte pour diffamation. Voilà, pour la petite nouvelle qui fait pas plaisir. Et on va commencer cette émission avec des petits retours sur le TIDOR. Donc le TIDOR, c'est le Trans Day of Remembrance, la journée du souvenir trans. C'est une journée qui a lieu le 20 novembre depuis 23 ans pour commémorer les personnes trans assassinées et poussées au suicide à cause de la transphobie. Alors là, ce qu'on va écouter tout de suite, c'est un retour sur le TIDOR à Brest que j'ai fait. Voilà. J'ai préféré faire un retour le lendemain du TIDOR, à froid, parce que déjà il y avait beaucoup de bruit pendant le TIDOR, et aussi parce que je voulais un peu de recul sur certains trucs. Donc le TIDOR, il y a eu un appel à rassemblement qui est passé, il y avait plus de 200 personnes, peut-être même 250 personnes. Il y a une prise de parole qui a été faite, on a lu un extrait d'un texte écrit par Sacha Yaropolskaya. C'était un texte d'appel à manifester le 10 octobre en réponse à la mort de deux femmes trans. Donc cette manif, elle était à l'appel de Accept ST. Et le texte, il était publié sur XY Media, notamment.
Tous les 20 ans, se tient la journée du souvenir trans, où la communauté trans commémore tous les membres qu'elle a perdus. L'association Transgender Europe, à travers son projet Trans Respect, compte les meurtres de personnes trans, enregistre le nom des victimes et quelques informations sur ce qu'elles faisaient dans leur vie. La plupart des noms qu'on lit sur cette liste sont féminins. Si on peut dire que la transphobie tue, la transmisogynie tue encore plus. 98% des personnes trans tuées en 2020 étaient des femmes trans ou des personnes transféminines. On sait combien 62% des victimes exerçaient le travail du sexe. On sait que 79% des victimes états-uniennes étaient des personnes racisées. On sait que 50% des victimes en Europe étaient migrantes.
L'intersection de la pauvreté, du racisme, des politiques anti-migrants, migrantes et de la transmisogynie est mortifère pour notre communauté. Les meurtres et les suicides touchent disproportionnellement les femmes trans et personnes transféminines. Que ce soit par des violences directes ou un environnement violent et invivable, les femmes trans pauvres, racisées, migrantes se trouvent ciblées. De jeunes femmes trans françaises sont poussées au suicide par une société transphobe et transmisogyne. Des femmes transmigrantes n'ont souvent pas d'autre choix d'emploi que le travail du sexe, parce qu'elles sont sans papier, car l'État ne fournit pas de cours de langue, car elles sont discriminées à l'embauche en tant que femmes trans. Et à cause de la lutte contre la prostitution, d'après la loi du 13 avril 2016, elles sont obligées de l'exercer dans des conditions dangereuses et déplorables, dans la rue et dans le bois, ce qui les vulnérabilise encore davantage en les exposant aux violences des hommes. Il est urgent de se mobiliser contre la transphobie et la transmisogynie.
Face à l'indifférence de l'État, dont les politiques structurant la transphobie systémique ont mené à ces morts, ce sont les parents des victimes, comme Libertad, la mère d'Ivana, ou Carole, la mère de Mathilde, qu'on a perdue en 2020, qui prennent la parole pour interpeller la société et réclamer la justice pour leurs enfants. Ces prises de parole, on peut les retrouver, encore une fois, sur le site XY Media. Par ailleurs, vous pouvez donner au Fonds d'Action Sociale Trans, le FAST, qui assure l'hébergement, l'alimentation, le transport et d'autres services essentiels pour les personnes trans, migrantes et précarisées. Voilà, merci.
Après la prise de parole, le moment de commémoration, il a vite été remplacé par une sorte de pride d'hiver, comme j'ai pu entendre dire dans le cortège. Pride d'hiver, c'est peut-être à cause de l'orga, parce qu'on a proposé de partir en cortège. Il n'y avait pas de slogan pendant une grande partie de la marche, et puis il y a une sono qui diffusait de la musique, parfois. Bon, les sons, c'était que des artistes trans, et c'était pas les musiques les plus joyeuses, mais... Avec le recul, on se dit que ça a sans doute rajouté au côté festif. Mais de toute façon, même si on n'avait pas pris le caddie sono, il y avait plein de sono dans le cortège. Et puis le décalage, il était flagrant entre devant les personnes qui tenaient les banderoles. C'était des personnes très jeunes qui riaient et qui hurlaient et qui se prenaient en photo. Et c'était en mode un peu paillette et... Lady Gaga, et derrière, les personnes qui marchaient plutôt en silence, avec des bougies à la main, c'était un peu deux salles, deux ambiances. On était un petit crew de 4-5 personnes trans à avoir fait cet appel à rassemblement, et on regrette, après avoir débriefé, que la majorité de la marche elle se soit déroulée en mode tough. Il y a quand même eu des moments forts. Il y a eu des slogans qui ont résonné dans la rue de Siam et puis des pancartes, notamment. Bon, là, il y avait une personne trans qui portait une pancarte Je serai peut-être la prochaine. Et sa pote à côté qui avait une pancarte avec écrit J'ai envie que tu vives.
I got served today, maybe yesterday, it's hard to say. stays open together and I get misgender. Everyone. What am I supposed to do? How are they supposed to know? Don't have the energy to have this conversation, one after the other, one after the other. I know there are things that I could do. I could have shaved my face this morning. I could have put on makeup, yeah, well I probably could have worn a dress or something. Shaving such a pain, and that shit really tears up my face. Dresses really aren't my style. I've been wearing these same short shorts for months at a time. Besides, my gender's not a costume, and my life's not performance art. I'm not doing anything but what I want to, and today, well, I'm sure not gonna start.
La musique qu'on vient d'entendre, c'est Misgender Dysphoria Blues de She, Her, Hers. Et le texte lu au début du rassemblement est publié sur le site XY Media sous le titre « Pourquoi la communauté trans appelle à manifester le 10 octobre ?» Alors, je voulais aussi vous partager un retour sur le Tidor que Charlie m'a envoyé.
Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 21 ans, je suis un mec trans non-binaire et futur soignant. Je suis venu à la marche pour la journée du souvenir transgenre parce que j'ai perdu une amie transgenre en juillet. Elle s'appelait Yelena, elle était fantastique. Et je voulais lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes les autres victimes de cette société transphobe, anti-TDS, brisante et ultra-capitaliste. J'ai été touchée par les discours ouvrant la marche. Par contre, j'ai été très mitigée sur la suite des événements, et je crois que je ne suis pas le seul, malheureusement. C'est difficile de devenir triste et en colère, alors que d'autres personnes semblent s'amuser et être dans une toute autre ambiance festive, en dansant tout sourire sur leur musique, puis en ne respectant même pas la minute de silence. J'ai même lu que d'autres ont vécu ça comme un moment d'euphorie. Alors, au risque de passer un peu pour un réac, j'ai trouvé ces attitudes insultantes et irrespectueuses dans un moment de commémoration de personnes décédées, assassinées et suicidées. J'ai eu l'impression qu'on piétinait une seconde fois leur vie et ça m'a vraiment révoltée. Je portais un t-shirt ACT UP avec le slogan « Silence égale mort ». Après la marche, j'ai réfléchi et j'ai pensé que certains événements de l'assaut ACT UP en hommage aux victimes du sida étaient de prime abord d'allure festive, un peu comme pour transfigurer la douleur. Mais je ne suis pas sûre que ce soit les mêmes ressorts politiques qui se soient joués ici. On avait surtout affaire à des personnes sans scrupules qui ne mesuraient pas l'enjeu de la marche, qui se croyaient à une pseudo-pride. En plus, à la fin, des gens que je ne connaissais même pas se sont permis de se moquer de mon prénom en me disant qu'il était cliché. Ça a vraiment achevé de me blesser. Et sur une note quand même un peu plus positive, j'ai été très fière d'ouvrir le cortège une bonne partie du temps en brandissant courageusement mon drapeau transgenre. C'était comme une pulsion de vie, c'était mon véritable hommage, c'était ma vengeance sur la mort.
Merci Charlie pour ton retour sur le Tidor. Le site Paris Lutte Info nous informe, là il y a quelques jours, de la construction d'une nouvelle prison, une SAS, dans le 93 à Noisy-le-Grand. Le début des travaux il est prévu pour décembre. Alors SAS. Derrière cet acronyme se cachent de nouvelles places d'enfermement, donc plus de prisonniers prisonnières. D'après ses concepteurs, cette structure d'accompagnement vers la sortie est un dispositif de plus pour favoriser l'insertion et aider à l'autonomisation des personnes détenues. Alors, il y a 24 nouvelles prisons de ce type qui sont prévues sur tout le territoire. Ça fait partie du plan prison national. Il y a 15 000 nouvelles cellules qui doivent être construites d'ici à 2027. Alors, je vais vous lire des extraits de l'article publié sur Paris Lutte Info. Contrairement au discours du ministère, ces petites prisons ne seront pas dans des immeubles lambda en centre-ville avec de nombreuses peines en semi-liberté. En réalité, vu les réticences locales à voir des tolards déambuler dans les rues, la plupart seront reléguées en périphérie, certaines étant même prévues sur des domaines pénitentiaires préexistants. De toute manière, quelle que soit la hauteur des murs et la présence ou non de miradors et de barbelés, sortir sans permission restera une évasion. Celle de Noisy sera coincée entre l'autoroute, des IUT, un entrepôt Amazon, un gigachantier du Grand Paris Express, avec seulement 30 prisonniers prisonnières en semi-liberté sur les 120 qu'elle est censée enfermer. Ça veut dire que les 90 autres, des conditions comparables à un régime porte ouverte de centre de détention, avec a priori plus d'activités, des entretiens Pôle emploi et un accompagnement individualisé. Ces nouvelles prisons sont un niveau de plus d'enfermement qui participe à la politique de l'administration pénitentiaire de la carotte et du bâton. L'accès sera réservé à celles et ceux dont le reliquat de peine est inférieur à un an et qui auront eu une détention exemplaire. Cela signifie un moyen de chantage de plus et qu'au-delà de la justice, c'est l'administration pénitentiaire qui juge qui est bonne à réinsérer et qui ne mérite pas une détention un peu moins horrible. Si la justice est déjà arbitraire, condamnant en fonction des profits des personnes, les CPIP, conseillers de probation et d'insertion pénitentiaire, et la matonnerie ont toujours plus de pouvoir sans que la personne incarcérée ne puisse se défendre. De plus, s'insérer dans ce monde signifie se faire exploiter ou pire, exploiter d'autres. Plus de 200 ans après que l'on conçoive la prison comme peine, il est évident que la justice et ses lieux ignobles ne suppriment pas les rapports de domination, mais les entérinent. Et qu'au-delà de cela, enfermer des individus est inacceptable pour qui désire la liberté de toutes. C'est en réalité une façon d'occulter les problèmes qui sont intrinsèques à cette société fondée sur des rapports de pouvoir et notamment d'argent. Je m'arrête là pour la lecture, vous pouvez le retrouver en entier sur le site Paris Lutte Info, paris-lutte.info. Voilà, en tout cas, ici on est contre les prisons, contre tous les lieux d'enfermement et courage à toutes les personnes détenues. Dans cette émission, chérie, je crois qu'il y a des anarchistes dans le salon. Je partage assez souvent du contenu qui vient du site La Quadrature du Net. Alors La Quadrature, c'est une association qui promeut et défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. Elle lutte contre la censure et la surveillance, que celles-ci viennent des États ou des entreprises privées. Elle questionne la façon dont le numérique et la société s'influencent mutuellement. Elle œuvre pour un Internet libre, décentralisé et émancipateur. Et aujourd'hui, la Quadrature, elle a lancé un appel à dons, puisque l'association, elle fonctionne sans argent public. Elle reçoit des subventions de fondations philanthropiques à hauteur de 18% de leur budget. On peut retrouver la liste entière sur leur site. Donc je vais vous lire l'appel à dons, qui est aussi très poétique. Plus aucun espace de nos vies n'échappe à la surveillance. Nos ordinateurs connectés sont truffés de pisteurs publicitaires. Nos téléphones sont des mouchards de poche. Les caméras dans les rues commencent à observer nos démarches et analyser nos visages. Les lumières n'ont aujourd'hui plus aucun rapport avec la recherche de la vérité ou de la liberté. Elles sont accaparées par les néons publicitaires et les projecteurs policiers. Consommées et contrôlées, voilà notre vie dans la lumière crue, sous des lumières si puissantes qu'elles ont changé la couleur du ciel. Les organisateurs du désastre voudraient même transformer le ciel en mirador avec leurs drones téléguidés. Qu'est devenue l'obscurité refuge? Où est passée la nuit apaisante? Qui se souvient de la pénombre? Où sont ces espaces non surveillés où nous pouvons encore parler, créer, tester, contester, être non conformes, minoritaires, libres et tout simplement vivre? Ils sont trop rares, trop dispersés, trop isolés, comme des poches de résistance, comme les derniers îlots d'un archipel que l'eau finira bientôt par engloutir. La technoville automatise la police et le déni de justice. Elle déshumanise les rapports sociaux et systématise la traque des ombres clandestines. Caméra sur la silhouette qui peint une fresque sur un mur. Projecteur sur la silhouette qui distribue du réconfort et des vivres aux âmes dont la rue est le dernier refuge. L'assaut sécuritaire sur nos espaces communs transforme les villes, non pas en espaces publics, mais en espaces impersonnels. L'ordre imposé renforce les discriminations, muselle les mouvements sociaux, dépolitise nos rues. Ou plutôt, impose à tout propos la sécurisation policière comme politique unique. De plus en plus de villes, de rues, de places du pays sont surveillées par les mêmes logiciels, vendus par les mêmes sociétés cyniques. Partout, nos villes sont remodelées par la même logique de contrôle, de méfiance et d'enfermement. Nous ne pouvons pas éternellement nous cacher derrière des capuches et des messages chiffrés. Le moment est venu de reconquérir la rue, de libérer les réseaux, d'affirmer que la surveillance est caduque. La Quadrature travaille depuis plus de 10 ans pour empêcher qu'Internet ne devienne une galerie marchande surveillée par une censure arbitraire. Par l'initiative Technopolis, lancée il y a 2 ans, elle tente aussi de documenter et de faire reculer la mise sous surveillance des villes et des espaces publics. Face à la dystopie qui est notre présent, nous essayons de retisser des fragments de nuit, de recréer des espaces sans surveillance. Aidez-nous à rallumer la nuit, faites un don à la Quadrature. Pourquoi donner à la Quadrature ? Pour faire le travail qui est le sien, l'association a une fantastique équipe de membres bénévoles, mais elle a besoin d'une équipe salariée, elle se finance grâce à vos dons. L'association ne touche aucun argent public, mais elle reçoit des subventions à hauteur de 18% de son budget, de la part de plusieurs fondations philanthropiques. Tout le reste provient de la générosité des personnes qui estiment que nos droits et nos libertés doivent être défendus sans relâche. À quoi servent nos dons ? Tout simplement à faire ici exister l'association. La Quadrature du Net emploie actuellement une équipe de 7 salariés à temps plein. C'est encore trop peu pour tout le travail à abattre. Quand on en parle avec nos collègues à l'étranger, l'étonnement est toujours le même. Vous êtes aussi peu nombreux pour faire tout ça ? Les dons recueillis servent principalement à payer les salaires des permanents de l'association, qui sont 85% des dépenses. Viennent ensuite le loyer et l'entretien du local, les déplacements en France et à l'étranger, en train uniquement, et des divers frais matériels propres à toute activité militante. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site www.laquadrature.net, voir aussi l'étendue de leurs actions qu'elles font et les articles également. On va maintenant s'écouter un appel à marcher à Rennes le 4 décembre pour obtenir justice et vérité pour Babacar Gaye, un homme noir exilé et neuroatypique, tué par la police à Rennes en 2015. Invitation à marcher le 4 décembre par le collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye. Dans la lutte menée par Hawa Gaye, la sœur de Babacar, des nouvelles demandes d'actes acceptées par la juge d'instruction rendent toujours possible l'ouverture d'une procédure à l'encontre des responsables de sa mort. Babacar Gaye était une personne exilée. Avec ce statut de sans-papiers, il a passé moins d'un an auprès de sa sœur et de son neveu. Il était venu les rejoindre à Rennes, après un périlleux et long chemin qui le mena du Sénégal en passant par des étapes difficiles au Maroc et en Espagne. Comme chaque année, Hawa appelle à un rassemblement pour honorer la mémoire de son petit frère Babacar et rendre publiques les circonstances réelles de son décès. À nous de répondre à son appel par notre présence pour soutenir Hawa dans sa lutte contre la police et la justice et pour que l'histoire de Babacar ne tombe pas dans l'oubli le samedi 4 décembre 2021 à 14h à Rennes. Depuis 5 ans, Hawa lutte pour obtenir la vérité sur la mort de Babacar et exposer au grand jour les mensonges des policiers. Son acharnement a permis de mettre en lumière de nouveaux éléments remettant en cause la thèse de la légitime défense avancée par le policier de la BAC qui a tiré 5 balles sur Babacar dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. C'est parce que Hawa Gaye s'est constitué partie civile en janvier 2017 que la mort de Babacar n'a pas pu se conclure sur un non-lieu validant un récit policier sans qu'une réelle enquête soit faite. C'est parce que Hawa a demandé que soit ajoutée au dossier une expertise croisant les rapports médico-légaux et balistiques qu'en 2019, un début d'enquête voit réellement le jour. Et c'est grâce à ces conclusions qui apportent des éléments matériels que le récit des policiers s'effondre. Elles viennent fissurer la thèse de la légitime défense qui semblait acquise par tous. Aucune des 5 balles tirées n'est arrivée de face. Nous savons que le policier affirme avoir tiré 4 fois sur Babacar sur le palier du 9e étage et à quelques centimètres de lui alors qu'il était face à lui. Mais ce même rapport révèle que les tirs ont des trajectoires descendantes. Hawa dénonce aussi toutes les contradictions des différentes versions policières, l'enquête faite par l'IGPN, l'enquête à charge contre son frère, les pressions qu'elle a subies, la violence des policiers lorsqu'elle se retrouve seule face à eux pour demander le corps de son frère et des réponses sur les circonstances de sa mort. à la suite de la reconstitution des faits le 27 septembre 2020, qui n'a fait que confirmer des récits contradictoires et incohérents, le parquet a indiqué que l'enquête sera clôturée dans les prochaines semaines. Mais la sœur de Babacar n'en est pas restée là. En février 2021, Hawa a demandé de nouvelles expertises acceptées par la juge d'instruction, ce qui assure la poursuite de l'enquête dans la mort de Babacar. Le combat continue. L'année 2021 était aussi celle de la création du réseau d'entraide Vérité et Justice, dont le collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye est membre, regroupant des collectifs de familles de victimes de crimes d'État, de familles ayant perdu un proche tué en prison et de personnes mutilées et blessées par la police. C'est à travers le combat que nous menons ensemble que se construisent la vraie justice et vérité. Ce samedi 4 décembre, nous réunirons nos forces et nous nous rassemblerons dans Maurepas pour la 6e commémoration de la mort de Babacar et demander la mise en inculpation des responsables de sa mort. Nous partageons tous et toutes la même détermination, donc tant que nous n'aurons pas tous et toutes la justice, vous n'aurez pas la paix. Dans l'article qui accompagnera le podcast de cette émission d'aujourd'hui, vous retrouverez des liens vers le blog du collectif Vérité et Justice pour Babacar, la page Facebook aussi, la cagnotte en soutien au réseau d'entraide Vérité et Justice, et puis quelques autres liens également. Et je vous relaye maintenant un autre appel à l'occasion du 25 novembre à Brest pour la Journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Le planning familial, le collectif des Brestoises pour les droits des femmes, le CIDFF, Parlons Trans et également des syndicats et des organisations politiques appellent à une manifestation au Flambeau en mixité choisie sans hommes 6 ce jeudi 25 novembre à 18h place de la Liberté. Et le samedi 27 novembre à 15h au bas de la place de la Liberté, il y a un appel à un rassemblement festif et familial. Voilà, alors Chéri, je crois qu'il y a des anarchistes dans le salon, c'est terminé. On peut retrouver cette émission en podcast sur le site radio-u.org et elle est également rediffusée ce jeudi à 10h30. On se quitte avec le morceau I Will Survive, donc c'est une reprise de... La chanson originale c'est de Gloria Gaynor et là c'est une reprise par la chanteuse Anoni. Bonne semaine et à lundi prochain.
Petrified. I didn't think that I could live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew stronger and I learned how to get along. And now you're back from space, and I just walked in to find you with that look upon your face. I should have changed the stupid lock, I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 minute you'd be back to bother me. Go on now, go on. Walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Aren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive for as long as I know how to love. I know I still love. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive. It took all the strength I had not to fall apart. I had to pick up all the pieces of my spend